Radio Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 12h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Reprise timide des activités socio-économiques ce vendredi à Beni au Nord Kivu après une paralysie des 2 semaines. Des groupes de pression et mouvements citoyens réclamaient le rétablissement de la paix et le départ des organisations internationales. Les activités socio-économiques ont repris également ce vendredi à Bunia, en Ituri, après 3 jours de ville morte décrétée par la société civile. Cette grogne a permis d'interpeller les autorités du pays sur les massacres des civils, selon certains habitants. D'autres estiment que cette grogne a porté préjudice à la population. Notre invité, c'est le chef de bureau de la MONUSCO Bukavu et Kindu. Karna Soro annonce le déploiement des 2 bases de la mission onusienne à Kalehe en vue de stopper les affrontements entre les communautés Batembo et les Bahutu. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydor Basunga. Au Nord Kivu, les activités socio-économiques ont repris timidement ce vendredi dans la ville de Beni après plus de 2 semaines de paralysie. C'est suite aux journées ville morte décrétées par des groupes de pression et mouvements citoyens pour réclamer le rétablissement de la paix et le départ des organisations internationales, dont la MONUSCO. Pour en parler, retrouvons à Beni André Kitenge.
Cette reprise timide des activités socio-économiques fait suite à la suspension temporaire des journées dites ville morte par un des groupes de pression La Véranda Mutsanga. Elle est observée par la reprise du trafic à travers les conducteurs de mototaxis et véhicules sur les grandes artères de la ville. Au marché central de Kilukwa, les activités ont repris effectivement. Hormis les pharmacies qui sont restées ouvertes pendant les journées dites ville morte, des alimentations, des banques ainsi que des stations-service ont repris leurs activités. Cependant, ces dernières ont été perturbées aux environs de 11 heures par quelques jeunes manifestants qui ont brûlé des pneus et érigé des barricades à certains endroits de la ville. La police est intervenue pour les disperser. La plupart des magasins et boutiques n'ont pas ouvert. Certains commerçants hésitent d'ouvrir leurs portes suite à la marche de la paix organisée ce matin par les femmes de Beni pour réclamer la paix dans la région. Ils disent observer, par crainte d'un éventuel débordement de cette marche par des personnes mal intentionnées qui pourront perturber les activités. Cependant, les écoles restent toujours fermées. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la reprise également des activités ce vendredi dans la ville de Bunia. Après 2 jours de ville morte décrétée par la société civile de l'Ituri, certains habitants de la zone pensent que cette grogne a permis ainsi d'interpeller les autorités de Kinshasa sur les massacres des civils enregistrés dans la province. D'autres, par contre, estiment que cette situation a porté préjudice à une population qui vit au jour le jour. Le point de la situation avec vous, Martial Kizabiamungu.
Ce matin, boutiques, magasins, stations-service et institutions bancaires ont ouvert leurs portes comme d'habitude sur les boulevards de la Libération. Déjà, cette aire locale, la circulation était fluide au centre-ville. Tout le monde s'est pressé pour aller au service. Des élèves se sont rendus à l'école ce matin et les institutions d'enseignement supérieur et universitaire fonctionnent normalement. Des habitants que nous avons interrogés dans la rue de Bunia salient les 3 jours de ville morte qu'ils qualifient d'opération salvatrice. Ils estiment que les autorités ont été mises devant leurs responsabilités. Ils disent attendre que le gouvernement central fasse des sommets pour mettre fin aux tueries à l'Ituri. Cependant, d'autres habitants retrouvés au marché central pensent que ces 3 jours de ville morte ne leur ont pas permis de vendre leurs produits, ce qui constitue un manque à gagner pour leurs familles déjà appauvries. La coordination de la société civile de l'Ituri remercie tous ceux et celles qui ont suivi ses mots d'ordre. Elle promet d'initier d'autres actions d'ici là si aucun changement n'est observé sur le plan sécuritaire. Depuis le centre-ville de Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Non loin de là, au Nord Kivu, la 34e région militaire dit avoir mis en place une unité d'intervention pour sécuriser la ville de Goma et pour parer à toute éventualité. Déclaration faite hier jeudi par le porte-parole de cette région militaire. Le major Njike Kaiko affirme que cette nouvelle unité a sillonné la ville pour rassurer la population locale. Il est au micro de Sifa Magro.
Le commandant de la 34e région militaire, le général des brigades Kapinga Mwanza Diedoné Mashika, a tenu, n'est-ce pas, à travers cette patrouille dont vous avez remarqué aujourd'hui sur toute l'étendue de la ville de Goma. Je veux parler ici d'une patrouille motorisée aérienne. Il a tenu à présenter à toute la population de Goma la nouvelle unité d'intervention de la ville de Goma. En effet, il s'agit pour lui de rassurer la population de Goma qu'il y a des stratégies anticipatives qui sont déjà mises en place afin de sécuriser la population de Goma. Donc, il n'est plus question d'avoir peur aux rumeurs qui circulent, mais plutôt qu'elle sache qu'il y a une unité d'intervention capable, n'est-ce pas, de parer à toute éventualité.
Et puis la 22e région militaire a présenté ce jeudi à la presse des hommes considérés comme des miliciens Bakatakatanga. Parmi eux se trouvent ceux qui avaient attaqué les camps militaires Kimbembe et le dépôt d'armement sur l'avenue Kibati dans la commune de Kampemba à Lubumbashi en février dernier. Les services de sécurité militaire s'engagent à mettre en déroute tous ceux qui tenteraient de troubler la quiétude de la population. À Lubumbashi, une correspondance de Jean Gandou.
Le premier groupe est composé d'une quarantaine de personnes qui ont été arrêtées dans la nuit du 17 au 18 avril dans une église dans la commune de Rwashi à Lubumbashi. Ils sont conduits par un chef coutumier en provenance de Bukama dans la province du Haut-Lomami. Après l'attaque ratée simultanée du 14 février 2021 au camp militaire Kimbembe et au dépôt d'armement qui est bâti dans la commune de Kampemba, ce chef coutumier a été nommé chef d'état-major de l'armée katangaise, à en croire le porte-parole de l'armée, qui a même brandi son acte de nomination signé par Kyungu Mutanga Gedeon. Le deuxième groupe est constitué de 35 personnes. Elles ont été appréhendées au quartier Kamasaka dans la commune annexe à Lubumbashi. Major Ngoï Muyumba, porte-parole de la 22e région militaire.
Tous ces gens ont été trouvés nus en pleine incantation afin d'acquérir leur invulnérabilité des Mai Mai dans le but d'attaquer Lubumbashi la nuit du 22 au 23 avril 2021. La 22e région militaire présente tous ces groupes dans le souci de sensibiliser la population en général et notre jeunesse en particulier, de se désolidariser de ce genre d'aventure sans lendemain. Ce même appel est formulé à l'endroit des chefs coutumiers, des notables, des responsables religieux et des leaders d'opinion de ne pas céder à la propagande subversive contre leur propre pays.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Justice à présent, confusion autour de la réintégration du ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakunga, au Parlement congolais. Alors que le Sénat a pris acte de sa demande de réintégration, certaines sources renseignent que Willy Bakunga avait bel et bien renoncé à son mandat de sénateur pour celui de député national et devra en principe revenir comme député et non pas comme sénateur. Question. Quelle sera donc la procédure à suivre pour que le ministre sortant de l'EPST, Willy Bakunga, en détention en ce moment en Brazzaville, recouvre son mandat et ses immunités parlementaires? Mais en même temps, que devient la procédure judiciaire contre lui qui est poursuivie pour détournement de fonds publics? Explication avec vous, Michel Kefindangoy.
D'abord, en vertu de l'article 110 de la Constitution, Willy Bakunga, ayant été élu à la fois comme député et sénateur, reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de ses fonctions de ministre de l'EPST. Cependant, même si le Sénat a pris acte de sa demande de réintégration, cela n'est pas automatique, explique le député Jacques Joly.
Moi, personnellement, quand je suis allé à la CENI, j'ai écrit pour réintégrer le dossier qui est allé à la commission PNJ. J'ai examiné et moi, j'ai eu un avis positif. Il y a l'honorable Ndina et vous, la commission a émis un avis négatif. Donc, la réintégration n'est pas automatique.
Ensuite, il s'avère que Willy Bakunga avait renoncé à son mandat de sénateur pour celui des députés nationaux, ajoute Jacques Joly.
Pour le cas de Bakunga, il ne peut pas réintégrer le Sénat parce qu'il avait renoncé au mandat de sénateur. Il faut peut-être voir au niveau de l'Assemblée si oui ou non il réunit les conditions.
Enfin, en rapport avec ses poursuites judiciaires en cours, Willy Bakunga, détenu à Brazzaville, pourrait être jugé et condamné en flagrance ici à Kinshasa après son extradition, et ce, sans tenir compte de ses immunités en vertu de l'article 107 alinéa 2 de la Constitution.
Merci Michel Kifinangoé pour ces précisions. Et puis dans la Tchopo, le gouvernement provincial travaille en attendant la décision de la Cour constitutionnelle pour départager l'exécutif et l'organe délibérant. Pour mémoire, après la motion de censure contre le gouvernement provincial, le gouverneur avait saisi la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité et illégalité de la procédure. Louis-Marie Oualé-Loufungula a fait jeudi soir au gouvernorat une mise au point sur cette affaire. À Kisangani, le compte-rendu de Jacques Mukonkole.
Ces informations ont été également relayées par la RTNC Kisangani dans ses éditions d'hier soir et ce matin. Afin d'éclairer l'opinion sur cette affaire, le gouverneur Oualé s'est adressé à la population via la presse locale. Selon lui, l'Assemblée provinciale de la Tchopo n'a pas adopté une motion contre lui personnellement, mais plutôt contre l'ensemble du gouvernement provincial. Et même si cette motion serait régulière, déclare le gouverneur, l'intérim ne reviendrait pas au vice-gouverneur. L'ensemble du gouvernement provincial assurerait plutôt les affaires courantes jusqu'à l'organisation par la CENI de l'élection du nouveau gouverneur sous sa coordination, et cela conformément à l'article 31 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Étant donné qu'après les votes de cette motion, il avait saisi la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité et illégalité, le gouverneur Louis-Marie Oualé-Loufungula dit attendre la décision de la Haute Cour.
Le gouvernement provincial n'ayant pas officiellement été saisi par ce message ne se sent donc pas concerné par son contenu. Au regard de toutes ces raisons ainsi évoquées, le gouvernement provincial de la Tchopo que je dirige n'entend pas se plier à ce message. Il attend plutôt se plier à la décision de la Haute Cour.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Santé à présent. Aucune mesure contre le coronavirus n'est suffisante en elle-même. C'est plutôt la combinaison des mesures dont le vaccin qui peut déboucher sur l'éradication de cette pandémie. Déclaration faite hier jeudi par le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu lors d'un café de presse organisé à l'UNPC, l'Union Nationale de la Presse du Congo Goma. Le docteur Nzanzu Sialita a annoncé à l'occasion le début le 1er mai de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Il invite par conséquent la population à faire confiance aux experts médicaux. Un reportage de Rosalie Zawadi.
Le docteur Nzanzu Sialita présente les sites présélectionnés pour cette campagne à Goma.
L'hôpital provincial, l'hôpital général charité maternelle, l'hôpital Hill Africa, l'hôpital Kieshero, l'hôpital La Monisco, l'hôpital militaire, l'HGR Virunga, et l'hôpital de la police. Voilà les sites présélectionnés à Goma. Alors, la formation des prestataires va commencer ce 25 avril.
Aux nombreuses questions des journalistes sur la nécessité même de cette campagne de vaccination, alors qu'il n'y a pas beaucoup de malades visibles, le ministre a dit ceci.
Beaucoup de cas graves que nous les détectons en post-mortem. Alors les malades sont soignés la plupart à domicile et d'autres dans les structures de soins.
Concernant les voyageurs, même vaccinés, ils feront les tests COVID, précise le ministre provincial de la Santé.
Quand vous voulez voyager, vous êtes toujours soumis aux tests. C'est parce que le virus, autant qu'il est en train de se transmettre d'une personne à une autre, il mute toutes les deux semaines.
Même une personne qui n'est pas parmi les groupes cibles peut recevoir les vaccins à sa demande, précise le docteur Nzanzu Sialita.
Et puis, le gouverneur du Maniema a lancé hier jeudi après-midi dans la commune d'Alungouli, à Kindu, la campagne de distribution gratuite de médicaments essentiels pour soigner les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Le coordonnateur provincial de ce programme précise à Radio Capi que 5 maladies tropicales négligées font des ravages dans cette province. Louis Kitete le dit à Florence Kizalunga.
Les maladies tropicales négligées, ce sont des maladies auxquelles la population ne montre pas que c'est un problème. Et aussi, ce sont des maladies que la politique n'est pas vraiment en compte par rapport à la lutte. Mais les maladies, on peut énumérer l'onchocercose, qui est une cécité de rivière. C'est une maladie qui détruit la peau et aussi attaque les yeux. Nous avons aussi la filariose lymphatique, qu'on appelle communément l'éléphantiasis, qui fait gonfler les pieds et aussi certains membres de l'organisme. Nous avons les bilharzioses, où on voit les les enfants uriner du sang et aussi émettre des sels teintés du sang. Nous avons les vers intestinaux et nous avons aussi les trachomes qui détruit aussi les yeux. La zone de santé d'Alungouli, par rapport à la cartographie, on a déterminé qu'il y a les schistosomiases ou les bilharziose ainsi que les vers intestinaux. Et par rapport à ces deux maladies, la cible, ce sont des enfants de 5 à 14 ans. Mais étant donné que la campagne de distribution qui est lancée, dont le coup de pouce est donné par l'exécutif provincial, concerne toute la province, toutes les zones de santé qui sont endémiques par rapport à cette cartographie telle que ça a été déterminé depuis qu'on a commencé ces enquêtes-là.
Le gouverneur du Maniema, Moussa Ferry Ngola, a mis à profit cette opportunité pour exhorter ses administrés à bien accueillir l'équipe de relais communautaires qui feront du porte-à-porte pendant une semaine.
Actualité internationale.
La France et les pays du G5 Sahel qui combattent depuis plusieurs mois les djihadistes ont exprimé leur soutien au processus de transition civilo-militaire au fils du président tchadien Idriss Déby Itno qui a été tué par des rebelles, a annoncé ce vendredi matin la présidence française. Avant le début proprement dit des funérailles du maréchal Idriss Déby en N'Djamena, la capitale, le président français Emmanuel Macron et ses homologues nigériens, burkinabés, maliens et mauritaniens ont rendu visite au général Mahamat Idriss Déby et qui préside désormais une junte de 15 généraux ayant succédé au défunt président et lui ont exprimé en même temps leur unité de vue, a indiqué à l'AFP une source de l'Élysée. La même source ajoute que le G5 Sahel est mobilisé aux côtés du Tchad et a fait part de son soutien commun au processus de transition civilo-militaire pour la stabilité de la région.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de bureau de la MONUSCO Bukavu et Kindu. Karna Soro annonce le déploiement des deux bases de la MONUSCO à Calais en proie aux actes de violence en vue de stopper les affrontements entre les communautés Batembo et les Baoutou. Il s'entretient avec Michel Chirimoy-Milouanoua.
Bonjour, monsieur le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu et Maniema.
Bonjour, monsieur.
Monsieur le chef de bureau, une situation a eu lieu à Kalehe le week-end passé. Est-ce que vous en êtes au courant?
Nous suivons la situation sur Calais depuis le début du mois. Comme vous le savez, la situation sécuritaire s'est progressivement dégradée. Nous avons mis ensemble une cellule avec le gouvernement provincial, avec le ministre provincial de l'Intérieur, où nous suivons la situation. Des tentatives de médiation ont été entamées avec la participation des députés provinciaux et nationaux originaires de la zone. Une équipe s'est même rendue à Katasomwa il y a cela quelques jours et l'équipe devait donc se rendre du côté de Tchigoma pour rencontrer d'autres parties donc à ce conflit. Malheureusement, la situation a encore dégénéré au cours de ce week-end. Et donc, en réponse à cela, en coordination avec les FRDC, nous sommes en train de déployer dans la zone des bases avancées pour sécuriser donc la zone avec un appui aux FRDC qui sont déjà sur place. Donc, nous allons déployer dans les heures à venir, dans les 48 heures, ce sont 12 heures à venir, deux bases dans la zone pour permettre donc de stabiliser, que les violences s'arrêtent et que les protagonistes puissent continuer à discuter pour mettre fin à ces tensions au plus tôt, dans la mesure où on a quand même des actes assez graves qui se sont perpétrés au cours de ce week-end.
Donc, si j'ai bien compris, monsieur le chef de bureau, la MONUSCO ne pense pas travailler seule, elle va travailler de concert avec les autorités locales.
Oui, tout à fait, nous n'avons jamais travaillé seuls, c'est le principe d'intervention. Nous travaillons avec le gouverneur de province, le gouvernement provincial pour essayer de stabiliser cette situation. Comme je vous ai dit, une équipe mixte avec des représentants du gouvernement provincial sous l'autorité du ministre provincial s'est déjà rendue sur place. Elle devait repartir ce mardi. Malheureusement, la situation a dégénéré. Et donc, nous continuons à travailler. Le gouverneur est informé. Le commandant de FRDC de la 33e région, le commandant de la PNC sont informés donc. Et c'est avec eux ensemble que nous travaillons pour essayer de stabiliser la situation. Mais encore une fois, comme vous le savez, La zone est extrêmement complexe, elle est vaste, elle est difficile d'accès. Nous parlons ici des moyens et hauts plateaux de Calais, c'est-à-dire l'axe qui part de Katasomwa par Karasi et qui se prolonge un peu plus haut du côté de Chigoma et qui monte vers Viralo. Donc la zone est extrêmement difficile d'accès. Parfois aussi, nous avons beaucoup d'aléas météorologiques et donc les populations de la zone sont vraiment en souffrance en ce moment et nous essayons de faire tout ce que nous pouvons en appui au gouvernement provincial, au gouvernement pour stabiliser la zone.
Oui, est-ce qu'il s'agit là de dernière situation qui a eu lieu à Rambira dans Mpinga Sud où on a tué 4 personnes?
Non, ça aussi c'est une autre situation. Nous avons une juxtaposition de conflits dans la zone. Nous avons le conflit qui a lieu actuellement dans la zone de Katasomwa. Nous avons ce conflit là qui est en cours donc au niveau du groupement de Mukubu. Nous avons ce conflit qui est en cours donc. Et parallèlement à cela, nous avons des petits foyers comme le foyer que vous venez de mentionner où il y a eu ce conflit foncier entre différentes familles et donc qui s'est soldé par la mort de différentes personnes.
Oui, les auditeurs peuvent comprendre qu'il s'agit de ces conflits des Batembo et les Bahutu qui ont dégénéré la fois passée, du côté des Katasomwa à Mubugu.
Tout à fait. Je pense que c'est naturellement, nous avons le nom d'un certain nombre de groupes. Nous pensons que la situation est beaucoup plus complexe. N'oubliez pas aussi que nous avons des résiduels de groupes armés étrangers dans la zone. Tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Mais nous travaillons d'arrache-pied avec le gouvernement pour essayer de stabiliser la zone et nous comptons aussi sur les autorités originaires de la zone, autorités traditionnelles, aussi sur la société civile de Calais qui fait un excellent travail, je tiens à le mentionner. Donc nous allons appuyer toutes ces initiatives en espérant que dans les heures qui viennent, on stabilise la situation. La représentante spéciale est informée et nous avons donc le soutien du représentant spécial chargé des opérations. Nous sommes en train de travailler sur cette zone depuis un certain temps. Nous sommes en contact avec lui. Les informations que nous avons proviennent de la société civile. Donc nous travaillons avec tous ces acteurs pour essayer de gérer cette situation et nous assurer que ces violences s'arrêtent au plus tôt. Ainsi, nous a été demandé par la représentante spéciale.
Merci beaucoup, monsieur le chef des bureaux. Merci pour toutes ces précisions.
Merci à vous.
C'était l'invité de Radio Okapi ce midi. Il s'agit du chef de bureau de la MONUSCO à Bukavu et à Kindu, Karnasoro, interrogé par Michel Chirimoy-Milouanoa. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Richard Junior Kamunga et Ben Kabamba qui m'ont accompagné.